écoutez, il est 8h08 exactement sur Radio Panique et nous sommes en compagnie de nos deux invités, Gwen et Stéphane. Bienvenue dans les studios de Radio Panique. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation pour venir parler de ce gigantesque projet qu'est le projet de métro. Du métro 3, le métro Nord, tel qu'on l'appelle. Et c'est à l'occasion de la diffusion d'une série de capsules pour décortiquer ce gigantesque projet, rassemblé sous le nom de Don't Look Down, que je vous ai invité. Merci à vous.
Bonjour.
Bonjour, merci de l'invite.
Et donc, ça fait quelques années déjà qu'on nous parle de ce projet d'élargir le métro, enfin de prolonger le métro jusqu'à notamment à Rennes du côté nord, mais aussi du côté sud. Quels sont les différents enjeux de ce projet et comment a surgi cette idée de développer ce métro nord et pourquoi on ne l'a pas encore aussi?
Ouf, une bonne grosse question, hein, pour commencer l'heure.
Je t'en prie.
Bah, peut-être ce qu'il faut dire, c'est que c'est un projet qui remonte aux années 60, puisqu'on sait qu'il y a une ligne 2, il y a une ligne 4, et puis il y a un numéro manquant entre les deux, qu'il correspond en partie à cette tronçon de trams souterrains qu'on appelle pré-métro, qui était donc construit à l'époque dans l'idée de devenir ultérieurement un métro, et puis que pour des raisons de priorité politique ou de budget, ça s'est pas réalisé. Ça se réalise maintenant avec la transformation de ces parties de pré-métro en métro, et puis au-delà de la gare du Nord, à partir de la gare du Nord jusque Bordet à Rennes, la construction d'un nouveau tunnel. Donc voilà, c'est un projet qui est tronçonné en plusieurs parties. Une partie qui va de la place Albert à la gare du Midi, qui existe déjà, les tunnels sont assez grands pour être transformés en métro. Puis la partie gare du Midi, gare du Nord, plus ou moins, où là, il faut agrandir les tunnels existants. Et puis la nouvelle partie qui comporte un tunnel de 5 km, 7 nouvelles stations de métro, un dépôt à Rennes. Et c'est ça qui est à l'enquête publique en ce moment, dans les communes de Bruxelles-Ville, Scarbeck et Evere.
Et donc c'est effectivement dans le cadre de cette enquête publique, enfin pas dans le cadre de cette enquête publique, mais pour dénoncer aussi la manière dont ça s'est mis en place. Là, donc cette enquête publique, elle dure jusqu'au
5 avril, donc même un peu moins de 2 semaines là. Oui, pardon, vas-y.
Et donc, un des reproches aussi qui est fait à ce projet, c'est d'avoir été fait un peu en dépit de toute consultation publique et en dépit des intérêts aussi et des besoins des populations qui habitent les zones où passerait ce métro.
On a un projet qui est faramineux. Et en fait, le débat public, ou en tout cas ce que propose le pouvoir public, ce ne sont que des discussions sur des choses très locales, en définitive. Donc on va discuter de, est-ce qu'on est d'accord pour faire un tronçon de tunnel par-ci, un aménagement de gare par-là, mais il n'y a à aucun moment la discussion sur le projet global. Donc on nous dit, le projet global, le métro 3, c'est ainsi, et on va pouvoir discuter de petites choses à droite à gauche. Donc on a un peu, c'est un débat public qui est émietté. On va parler des petites miettes et en définitive on parle pas du cœur du problème.
Du gros gâteau. Parce qu'il s'agit d'un gâteau aussi, est-ce qu'il y a des intérêts qui dépassent clairement l'intérêt public et qui font justement que ce projet est développé un peu de manière
alors,
sournoise.
C'est-à-dire que c'est quand même une question. Enfin, on y verra peut-être. L'auditeur y verra peut-être plus clair quand on aura fait le tour du sujet. Mais c'est quand même une question qu'on peut se poser. C'est-à-dire, c'est un projet qui est très coûteux et qui semble pas très indispensable en termes de mobilité et qui semble plus être vraiment un projet de notre époque, quoi. Il correspond à des enjeux qui étaient ceux qu'on se posait dans les années 60 pour laisser la voiture en surface, surtout. Mais donc ça, on va y revenir. Et donc, il y a quelque chose d'un peu étonnant dans le fait que le politique pousse ce projet à bout de bras, comme ça, 2,3 milliards d'euros, ça c'est la dernière estimation, et tout le monde s'accorde pour dire que c'est un budget qui va continuer à gonfler. Il a déjà doublé entre les premières estimations d'il y a 10 ans et aujourd'hui. 2,3 milliards d'euros, c'est de l'argent que la région n'a pas. Elle ne dispose pas de cet argent. Elle s'endette déjà depuis quelques années pour lancer ce projet. Et au fur et à mesure, ça va des années, ça va obliger à faire des choix politiques très durs. C'est-à-dire qu'on va plus pouvoir faire toute une série d'autres projets, pas seulement en mobilité. Donc la question qui est derrière, c'est pourquoi on s'obstine à vouloir faire cette ligne. D'autant que il faut quand même le dire. Ben en partie, c'est ce que je disais, c'est une ligne de pré-métro existante. Et de l'autre côté, c'est une ligne de tram existante qu'on va enterrer. Hein, c'est en gros la ligne du tram 55. Donc ce sont des endroits où il y a des problèmes de saturation, il y a trop de passagers aux heures de pointe, certes, mais c'est des problèmes qu'on aurait pu chercher à solutionner autrement, de manière beaucoup moins chère et de manière beaucoup plus légère, c'est-à-dire avec des mises des solutions qui pouvaient être mises en pratique beaucoup plus rapidement.
Solutions qui n'ont pas été mises sur la table. Donc, c'est-à-dire qu'on a, à Stibé Bégueriz, pour parler d'eux, n'ont pas cherché d'autres solutions. Ils ont juste dit, ils nous font un métro. Ils n'ont pas demandé aux autres acteurs du transport public quelles pouvaient être les solutions de mobilité. Alors, je remets juste un truc, tu as fait un petit lapsus, Gwen, tu as dit 2,3 milliards, c'est 3,2.
Non, c'est 2,3.
2,3
Ouais.
Ok, pardon.
Mais on ça va deviendra peut-être que ça 3,2 sera dans voilà, quelques années, 2,3. Je crois.
Okay. Mais du coup, qu'est-ce qui justifie, enfin c'est une question que j'arrête pas de me poser, justement, qu'est-ce qui justifie que malgré le fait que quand même de nombreuses associations aussi de défense des usagers, de mobilité, disent que le métro c'est la dernière solution et donc que c'est le dernier recours quand plus rien d'autre n'est possible à mettre en place. C'est aussi que c'est, dans une des vidéos que vous avez sorties là de Don't Look Down, il y a justement ce chemin qu'on doit faire avant d'arriver au métro. Qui est gigantesque. Enfin, selon les stations, déjà actuellement, c'est un problème pour certaines stations. Et là, on parle de stations qui vont se retrouver à 30 mètres en dessous de la terre. Et donc, pour les personnes à mobilité réduite, pour les femmes, plus souvent des femmes qui ont des poussettes, enfin, toute une série d'usagers, c'est aussi, et même les personnes totalement valides, c'est une perte de temps absolue d'utiliser le métro, contrairement à l'argument qui dit qu'on voit placarder un peu partout 20 minutes pour traverser la région.
Moi, j'ai découvert un terme en travaillant sur ce projet, c'est le terme de rupture de charge. Alors, c'est un terme, je sais pas, poétique ou en tout cas, cette question de rupture de charge, c'est, tu me dis si je me trompe, hein, si j'ai bien compris, c'est quand vous faites un trajet d'un point A à un point B, c'est le moment où vous allez devoir changer, donc descendre d'une rame pour aller dans une autre rame. Et donc là, on augmente clairement cette rupture de charge en devant descendre à 30 mètres sous terre. Aujourd'hui, actuellement, la station la plus profonde à Bruxelles, c'est Botanique, et c'est 26 mètres sous terre. Donc on rajoute 4 mètres sous terre, on descend de encore un étage et demi. Donc on est à 10 étages sous terre une fois qu'on est à 30 mètres sous terre. Mmh. Donc là, pour monter à Radio Panique, c'est 4 étages. Je ne suis pas bien en forme. 5 étages. Voilà. J'ai un problème avec les chiffres ce matin. 5 étages, je suis monté là, j'étais un petit peu essoufflé. Faut peut-être que je me remette au sport. Mais en tout cas, voilà, si à un moment les escalators ne fonctionnent pas, les ascenseurs ne fonctionnent pas et que vous êtes à 30 mètres sous terre et que vous devez remonter les 10 étages, ça va être sport.
Alors la rupture de charge, elle s'applique par exemple à la station Albert, c'est-à-dire que tous les gens qui viennent de Uccle par exemple, qui ont l'habitude de prendre le tram qui les emmène directement à Saint-Gilles, au centre-ville ou au-delà, ils vont devoir s'arrêter à Albert où là ils vont rentrer dans une station de métro et ils vont faire cet exercice de rupture de charge qui va à cet endroit-là, effectivement, leur faire perdre du temps. Après, la question de la vitesse, enfin, c'est ça qu'on explique aussi dans l'épisode, c'est ça dépend des trajets, ça dépend et donc ça dépend des usages et donc ça dépend des usagers. Si vous allez faire, si vous allez de Bordet à Albert, vous pourrez le faire en 20 minutes et vous économiserez probablement l'équivalent de 20 minutes par rapport à ce qu'il faut faire aujourd'hui en tram. Par contre, si vous allez sur le tronçon nord où aujourd'hui il y a 15 arrêts de tram 55 qui vont devenir 7 stations de métro, comme le tram 55 va disparaître, et pour tous des trajets locaux qui sont plus des trajets de l'ordre du quotidien, des trajets qu'on fait dans un périmètre plus restreint, chercher ses enfants à l'école, faire des courses, etc. Là, vous allez perdre énormément de temps puisque il va y avoir une disparition d'un certain nombre d'arrêts. Il y aura plus de transport en commun en surface et donc soit vous devrez faire des parties à pied, soit en tout cas il y aura cette descente.
Aux enfers.
En tout cas, cette descente de plusieurs minutes dans les stations de métro, quoi.
Et c'est vrai que, enfin, vous évoquiez la station Botanique. Moi, ça m'arrive parfois de changer, enfin, de prendre plutôt le tram ou quoi, justement parce que je me dis c'est trop. Il y a trop de distance entre le métro et la sortie pour justifier le fait de prendre le métro.
Le métro, en définitive, est une solution pour des transports longs. Dans un centre urbain, là où le tram et le bus sont plutôt pour des trajets courts, donc des trajets de proximité. Aujourd'hui, quand on parle de travailler sur le tissu social, le tissu urbain, c'est-à-dire de favoriser les échanges courts, enfin les trajets courts dans une ville, aujourd'hui le métro n'apporte pas de solution à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est bien pour aller, voilà, là, tout l'argument principal avancé par Asti Bébéris, c'est ces 20 minutes pour faire le nord et le sud, aller du nord au sud de la ville, donc aller de Albert à Bordet.
Et il y a finalement, c'est ce que vous montrez aussi, peu de gens qui, au quotidien, on va dire, doivent faire ce trajet-là en 20 minutes et ça ne correspond pas à un besoin.
Alors nous, si tu veux, dans les capsules, on interview des gens et on repart de recherches et d'argumentation et d'études existantes. On n'a pas amené notre propre étude.
Nous n'avons pas fait d'études à ce sujet-là.
Voilà, et effectivement, ce que, par exemple, des géographes qui travaillent sur la mobilité à Bruxelles de longue date, disent, c'est que c'est une ligne qui contrairement à d'autres lignes ne dessert pas, tu vois, quand on regarde les lignes de métro existantes à Bruxelles, tu vas avoir, je sais pas moi, le cinquantenaire, le quartier européen, des lignes qui sont parsemées d'endroits où il y a beaucoup de voyageurs. Ici, on est dans une ligne paradoxalement plus bruxelloise, où il y a moins de stations qui seraient destinées à des nafteurs, mais qui est une ligne, c'est ça le principal problème, c'est une ligne existante, le transport en commun il existe, c'est un transport en commun de surface, donc on ne va pas relier des nouveaux points de la capitale. Il y a des tas d'endroits, alors merde, moi-même j'ai dit la capitale, tu vois comme on est pollué de la ville de Bruxelles, pardon, on ne va pas relier de nouveaux endroits qui ne sont pas connectés actuellement de Bruxelles. On va enterrer le transport en commun et ça c'est quand même une des questions principales qu'il faut se poser. C'est est-ce que en 2022, quand on connaît la situation écologique, le problème climatique, que les objectifs politiques à l'échelle 2030, par exemple, réduction de 45% des émissions de gaz à effet de serre 2030, c'est dans 8 ans, 2050, zéro carbone, enfin en tout cas neutralité carbone, c'est dans pas longtemps, et qu'on nous fait là un projet qui va mettre 10-15 ans minimum à se réaliser, qui va mobiliser tous les deniers publics régionaux pour enterrer un transport en commun existant en surface, c'est-à-dire pour laisser la place à la voiture, ça, sans se confronter au problème de la voiture, ça c'est quand même une des questions fondamentales qu'il faut se poser. Donc c'est vraiment, ça ressemble vraiment à une transposition d'un ancien projet, vraiment d'un projet des années 60, qu'on relance aujourd'hui, et ça peut-être pour relier à ta toute première question, qu'on relance pour des raisons... Il y a eu, c'est expliqué dans un des épisodes, un moment vers 2012, une conjonction de différents intérêts politiques au moment où Laurie Tom Collins se présentait à Schaerbeek, Didier Reynders se présentait à Bruxelles, et Rudy Vervoort, lui qui est le ministre-président de la région Bruxelles-Capitale, qui est aussi le bourgmestre d'Evere et qui veut amener le métro à Evere. Et à ce moment-là, c'est voilà, ces trois intérêts-là ont fait que le dossier a ressurgi et a avancé sans vraiment être étudié, hein, comme disait Stéphane, sans vraiment que les alternatives et que les problèmes de mobilité soient étudiés d'une manière un peu objective.
Et les autres acteurs de la mobilité à Bruxelles, que sont la Tech, Delaine, on ne leur a rien proposé. On ne leur a pas demandé quelles solutions ils pouvaient apporter aux questions de mobilité. La ville a juste demandé à la STIB, est-ce qu'on fait ce métro 3 ou pas ? Et alors, à qui on a demandé de faire ce métro ? Enfin, qui a réalisé l'étude ? Les entreprises qui vont réaliser le métro. Donc, on l'explique aussi dans une capsule, ils avaient tout intérêt à ce que le métro se fasse. Donc on a ici aussi on revient à des questions politiques, mais on a ici un conflit d'intérêts clair.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont demandé une étude à un truc qui s'appelle Bureau Métro Nord, qui s'est constitué pour l'occasion, qui est un consortium d'entreprises, de travaux publics, et dont une entreprise qui fabrique des tunnels. Or ici, il s'agit de fabriquer un tunnel de 5 km avec une machine dont on pourra parler éventuellement, qui s'appelle le tunnelier, qui est assez impressionnante. Et c'est ce consortium qui a été chargé de faire l'étude d'opportunité, c'est-à-dire l'étude pour dire oui ou non, c'est intéressant de faire un métro. Et donc évidemment, ils ont conclu que oui, c'était intéressant de faire un métro.
Et justement, pour revenir, parce que je pense que c'est pas toujours très clair, Belliris, c'est qui exactement ? Est-ce que c'est...
Belliris, c'est l'État fédéral, c'est une enveloppe de l'État fédéral qui est destinée à Bruxelles, et au-delà d'une enveloppe, c'est un ministère, il y a toujours un ministre chargé de Belliris. C'est pour ça que je disais à l'époque, c'était Didier Reynders qui occupait cette fonction au fédéral et qui... voulant se présenter à Bruxelles, a utilisé sa casquette au fédéral pour pousser ce projet et dire « moi j'amène un projet d'importance à Bruxelles ». Et Belliris, donc l'argent est donné à Bruxelles. Au départ, c'était vraiment pour des investissements qui concernent le rôle de capitale qu'occupe Bruxelles. Donc ça pouvait être des grosses infrastructures surtout. Et c'est quelque chose qui est négocié pour des périodes de 4 ans, je crois, entre la région bruxelloise et Belliris. Donc, tous les 4 ou 5 ans, ils décident à quoi va être destiné l'argent. Donc, c'est quand même la région bruxelloise reçoit cet argent, mais c'est elle qui va pousser pour savoir à quoi va être utilisé cet argent. À la longue, au fur et à mesure des années, c'est de l'argent qui a été utilisé à des choses de plus en plus variées, que ce soit du tram, des pistes cyclables, que ce soit parfois de la rénovation urbaine, même des aménagements plutôt de parcs. Enfin, ça, c'est devenu un truc beaucoup plus varié. Et là, on est en train, avec le métro, de revenir par la volonté de la région bruxelloise au truc initial qui est uniquement des grosses infrastructures, puisqu'en gros, la région bruxelloise, ne sachant pas financer l'entièreté de cette ligne, voudrait maintenant que l'entièreté de l'argent de Bail Iris soit utilisée pendant une période sans doute de 10 ans au métro 3. Donc c'est clairement du coup de l'argent qui va pas être utilisé ailleurs. Et désolé si c'est technique tout ça, mais il y a une autre chose qu'il faut comprendre, c'est que Bail Iris donne des sommes fixes à Bruxelles, et donc ce dont on parle là, c'est d'utiliser l'entièreté de ces sommes fixes. On en parle, hein, c'est pas encore décidé, mais c'est ce que le ministre des Finances bruxellois a sorti ces dernières semaines. Au métro 3, mais même si on utilisait l'entièreté de ces sommes pendant 10 ans au métro 3, ça ne suffirait pas du tout à financer l'entièreté de la ligne. Donc le reste de l'argent, on ne sait pas d'où il va sortir, quoi.
Et donc c'est justement ça aussi un peu le problème, c'est qu'on a engagé toute la population bruxelloise à un projet, et c'est la région qui va devoir payer tout ce qui va dépasser, et comme vous l'avez déjà évoqué, on est passé d'un budget, je pense, de même pas un milliard à 2,3 milliards.
Les premiers chiffres, c'était ça annoncé, on était autour d'un milliard, et maintenant on est à 2,3. Ça augmente, hein, d'année en année, donc on en reparle dans 2-3 ans, on verra où on en est.
Oui, là, ils sont passés récemment de 1,66 milliard à 2,3 milliards. Donc,
c'est exponentiel.
C'est exponentiel. Et c'est des chiffres. Ça, je crois que quand on dit ça, ça a l'air de rien. Le petit virgule 3, là, c'est la petite décimale, mais le virgule 3, c'est 300 millions d'euros, quoi. Donc, on vient d'augmenter de 700 millions d'euros, comme ça, là, en quelques semaines. Et encore, pour le moment, non seulement l'enquête publique n'est pas finie, après il va y avoir des appels d'offres, après il va y avoir toutes des procédures, des années qui vont se passer. Enfin, on sait que c'est des sommes qui vont être amenées à augmenter.
Et justement, avant effectivement de parler du tunnelier, est-ce que vous pouvez refaire peut-être un schéma de comment ça va se passer ? Donc là, il y a cette enquête publique. Qu'est-ce qu'il est encore possible de faire ? Parce que face à ces projets, en général, il y a toujours un moment où on nous dit mais c'est comme ça, on ne peut plus revenir en arrière parce qu'il y a telle clause dans le contrat. Est-ce que c'est le cas dans ce projet-ci ?
Alors, ça revient au découpage du projet, et je voulais ajouter que le découpage du projet, c'est une des raisons qui a fait qu'il n'y a jamais eu de débat sur l'ensemble du projet, puisqu'on a, il y a eu une enquête publique pour la partie Albert, il y en a une pour la station de métro qu'ils sont en train de construire avenue de Stalingrad, donc sur la partie sud du projet. Je pense qu'il y a eu une autre enquête publique sur une extension de tunnel au niveau de la gare du Nord, mais il n'y a jamais eu un moment où l'entièreté du projet a été discutée. Donc, toute cette partie-là, la partie sud, mais on va dire que c'est trop tard. En tout cas, les permis ont été donnés, les travaux sont largement entamés. Aller faire un tour à avenue de Stalingrad pour voir dans quel état ça se trouve, c'est difficile de se dire qu'on va revenir en arrière. Par contre, sur la partie qui est la plus coûteuse et sur laquelle il faut construire un tunnel qui n'est pas existant et cette nouvelle station de métro, c'est-à-dire aussi sept nouveaux aménagements d'espace public, etc. Tout ça, c'est ce qui est à l'enquête publique maintenant. Et une enquête publique, ça veut dire que les citoyens, alors c'est pas seulement les habitants des communes concernées, ça peut être n'importe quel Bruxellois, peut prendre connaissance du dossier qui est soumis et peut s'exprimer dessus. Alors prendre connaissance, c'est un peu compliqué parce que le dossier fait 6300 pages plus 300 plans.
Je viens de calculer, donc si vous vous mettez à le lire maintenant jusqu'à la fin de l'enquête publique, c'est 450 pages par jour. Voilà.
Voilà, c'est ça, faut un temps plein.
Faut un temps plein.
Oui, et lire vite aussi des documents qui sont super techniques.
Et comprendre. Ce sont des documents techniques, donc dans ce projet-là, par exemple, Gwen suit le projet depuis un petit moment. Moi, je découvre en travaillant sur ces capsules le projet depuis maintenant quelques mois. Je n'ai aucune connaissance dans ce domaine-là. C'est incompréhensible. Enfin, on a une intervenante qui dit ça. Elle dit pour des gens comme nous, pas un Bruxellois lambda qui n'est pas ingénieur, ce sont des documents qui sont impossibles à lire, impossibles à comprendre. Enfin, même toi qui suis le dossier, est-ce que tu comprends tout de ces 6000 pages? Tu as lu les 6000 pages déjà?
Non, j'ai pas lu les 6000 pages.
Tous les soirs, tu lis un petit peu pour t'endormir.
Il y a un résumé qui fait 595 pages. Donc j'ai lu des parties du résumé et j'ai lu des chapitres qui m'intéressaient plus que d'autres, c'est-à-dire j'ai pas été dans les trucs les plus techniques. Donc par exemple, si tu es habitant je sais pas de la Cage aux Ours, disons, il y a une station qui va arriver Cage aux Ours, eh ben sur le mois d'enquête publique, tu vas peut-être plutôt aller lire juste la partie qui concerne la Cage aux Ours. Mais donc ça veut dire que tu ne vas pas lire les parties qui, par exemple, pour moi sont les plus intéressantes, c'est celles qui vont comparer le métro à d'autres potentielles alternatives, c'est-à-dire si on met le tram en surface, ça donne quoi, etc. Ou la partie bilan carbone. Alors ça, je l'ai lu, du coup, pour le coup. On pourrait en parler.
Et tu vas
aussi
nous faire un résumé.
voilà. Oui, si tu veux. Mais juste terminer l'histoire de la procédure. Donc, maintenant, c'est à l'enquête publique, c'est-à-dire on peut lire, mais on peut aussi, on peut lire soit en ligne, soit en allant à au bureau urbaniste de l'urbanisme de sa commune, donc Bruxelles-Ville, Evere ou Schaerbeek. Et on peut écrire à la commune des remarques ou son avis. Alors ça peut être quelque chose de simple, très basique. Non, merde, allez vous faire foutre, je veux pas de ça. Mais ça peut être quelque chose, un développement beaucoup plus approfondi ou technique. On peut faire tout ça jusqu'au 5 avril. Et jusqu'au 5 avril, on peut aussi demander à être entendu par une commission de concertation qui, elle, va se réunir le 21 avril. Qui va regrouper des fonctionnaires de différents services, de la région, des communes, etc., qui vont étudier la demande et qui vont ensuite remettre un avis.
Où se trouve cette
concertation? Alors, je ne sais pas où ils vont la faire, je ne crois pas que c'est encore public.
Ils n'ont pas encore annoncé.
Non, parce qu'en général, une commission de concertation, c'est un... Ben, par exemple, toi, tu veux augmenter ta maison d'un étage.
Oui, je vois bien le principe.
Tu dois faire une demande de permis et tu passes aussi devant une commission
et
de concertation.
Et tous tes voisins peuvent venir s'opposer.
Et donc ça se passera dans la commune où tu habites. Enfin, où se trouve ta maison. Mmh. Mais par contre, ici, comme c'est un projet qui, là, en l'occurrence, traverse trois communes, je ne sais pas encore s'ils vont le faire à Schaerbeek ou à Evere. Voilà.
Je ne sais pas si c'était déjà annoncé ou non.
Et du coup, est-ce que, parce que ça semble intéressant aussi comme alternative, de demander à être entendu lors de cette commission de concertation, est-ce que ça doit être justifié? Est-ce que les citoyens doivent déjà écrire tout un argumentaire sur les raisons qui les poussent à demander à être entendus?
Non, la procédure, c'est vraiment d'écrire avant la fin de l'enquête publique, donc avant le 5 avril, qu'on souhaite être entendu. Voilà, on ne doit pas en dire plus. Et donc, ça veut dire que ce jour-là, et c'est assez exceptionnel, je ne sais pas comment ils vont faire, d'ailleurs, où ils vont le faire, c'est une question, mais comment ils vont faire, parce que parfois, une enquête publique, disons, une commission de concertation, disons que ça va durer peut-être une heure sur monsieur machin qui veut augmenter sa maison d'un étage ou qui vont monter le mur de son jardin d'un mètre. Voilà. Ici, on a 7 nouvelles stations de métro. Le principe même d'un métro à la place d'autres alternatives, tout l'aspect bilan carbone, le tunnel, le dépôt Aeron, on a tout ça dans une même commission de concertation. Je ne sais pas si ça va durer la journée ou 3 jours ou comment ils vont faire. Mais en tout cas, c'est important que des habitants, des citoyens, des associations aillent se faire entendre, soit pour exprimer quelque chose, un point de vue global sur le projet, soit pour parler. Certains vont peut-être parler uniquement des ascenseurs pour les PMR ou de l'esthétique d'une des stations de métro ou de rajouter des parkings vélos, etc. Il peut y avoir des choses très techniques comme ça, mais il peut y avoir évidemment des interpellations qui remettent en question plus profondément le projet.
Et donc après cette commission de concertation,
alors après, le grand jeu démocratique continue, c'est-à-dire que la commission de concertation va remettre un avis qui sera
objectif.
Pas toujours, puisqu'ils sont parfois un peu partie prenante. Alors il faut quand même se rendre compte que les communes, elles ont un peu peur, hein, même Schaerbeek, qui n'est pas forcément contre le projet de métro, mais enfin, ils se rendent bien compte que ça va être un projet très très impactant qui va causer beaucoup de problèmes pendant une période très longue. Donc ils vont quand même avoir des remarques, ça va discuter. De là va sortir un avis qui sera soit un avis positif, soit négatif, soit positif sous condition, c'est-à-dire qu'ils vont dire c'est positif à condition que vous revoyez ça, 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 ça et ça. Et ensuite, la région bruxelloise, et c'est là qu'on est de nouveau dans une forme un peu de conflit d'intérêts, on va dire la région bruxelloise va octroyer ou pas le permis. Or, la région bruxelloise, c'est elle qui veut faire ce projet, et le ministre de l'urbanisme en charge de l'urbanisme maintenant, c'est Pascal Smet, qui était sous la précédente législature le ministre de la mobilité, et qui a beaucoup poussé ce projet de métro 3. Donc il ne faut pas se faire de grandes illusions sur ce que ça peut changer au cours des choses, mais c'est quand même un moment, c'est-à-dire qu'il vaut quand même toujours mieux y aller et faire des remarques et montrer du rapport de force que de ne pas y aller.
Oui. Que se dire que c'est foutu d'avance. Et qu'est-ce qui se passerait si, soyons optimistes, l'avis est négatif, et puis est-ce qu'il y a encore vraiment une possibilité de revenir en arrière ou d'arrêter le projet sans que ça coûte aussi énormément, sans que la région y perde plein d'argent? Ou bien c'est déjà foutu, ça aussi?
Bah, c'est là qu'on est dans des choses un peu irrationnelles, c'est-à-dire que eux-mêmes savent qu'ils n'ont pas l'argent et que ça va être compliqué. Enfin, si vous vous intéressez juste à un truc ces dernières semaines, vous regardez toutes les déclarations du ministre du budget de la région bruxelloise et vous comprenez la schizophrénie dans laquelle vivent ces gens pour le moment, c'est-à-dire qu'il est ministre du budget, il respecte un accord de gouvernement qui a intégré le métro 3, et en même temps tous les 3 jours il sort dans la presse ou au Parlement en disant on n'a pas l'argent, il va falloir emprunter, il va falloir revoir le budget. Un autre jour il va dire il va falloir échelonner le projet sur beaucoup plus d'années, c'est-à-dire faire durer le chantier beaucoup plus d'années pour qu'on ait les moyens de payer. À un autre moment il va dire
on est déjà parti pour 10 ans de chantier.
Ouais.
Donc si on échelonne encore, imaginez vivre à Bruxelles dans une vigue en chantier. Pardon, je t'ai coupé.
Non,
mais c'est vraiment échelonné. C'est faramineux. On est sur 10 ans de chantier et on parle déjà de l'échelonner. Dans un interview, il dit d'ailleurs on va peut-être devoir se serrer la ceinture pendant 5 ans. Il dit ça. C'est. C'est dur.
Ouais, donc on est dans un truc de l'ordre de l'irrationnel, je crois, qui est effectivement. C'est-à-dire qu'à la fois, ils portent ce projet à bout de bras et en même temps, ils se rendent bien compte qu'ils n'ont pas les moyens de le financer et que sans doute, si ce projet tombe, ce sera pour une raison budgétaire ou parce qu'il y a une forte mobilisation qui n'existe pas pour le moment dans la population. Ou alors le pire des scénarios évoqués par certains de nos intervenants, c'est de dire le projet démarre et puis à un moment il n'y a plus d'argent et il s'arrête, et donc on a commencé à creuser un tunnel, on a commencé à ouvrir des places et on ne s'est plus terminé. Ou le tunnelier tombe sur la nappe phréatique, ça fait une inondation et on ne sait pas payer les surcoûts, etc. Il y a aussi ce scénario-là qui est évidemment le moins enviable de tout.
Et justement, dans les vidéos qui sont déjà disponibles, c'est ça que vous mettez en avant aussi, c'est le fait que les risques de construction, justement, comme tu dis, une nappe phréatique, et on sait que Bruxelles est construite sur une zone marécageuse, donc il y a une forte probabilité quand même pour que ce projet dégénère complètement et soit complètement mis à l'arrêt.
Alors en Belgique, on aime toujours bien regarder du côté français, et on a un cas. Ils ont pris un peu d'avance, en tout cas à Paris, donc avec le projet de Grand Paris. Ils utilisent eux-mêmes la technique du tunnelier et on tombe sur pléthore d'articles qui expliquent que le chantier ne se passe pas comme prévu, que le chantier va se rallonger, qu'il y a des complications techniques, qu'il y a des complications budgétaires. Donc, on a ici un exemple qui a quelques années d'avance sur un même type de projet et qui ne se passe pas comme c'était annoncé.
Et justement, est-ce que les politiques prennent en compte ça ou Gwen, tu évoquais l'irrationalité, mais c'est vraiment ça. C'est à quel moment les politiques, qui sont pourtant entourés de conseillers, reviennent à la raison, on va dire, ou bien est-ce que les intérêts sont tellement énormes aussi, les intérêts financiers. Enfin, il y a quelques semaines, on parlait de tout ce qui est promotion immobilière ici à Bruxelles, où on voit qu'il y a des collusions énormes entre les politiques et les promoteurs. Est-ce que c'est la seule explication où il y a vraiment cette irrationalité totale qui fait qu'on...
Pour moi, il y a de l'irrationalité parce que les intérêts des bétonneurs ou des sociétés qui vont gagner de l'argent en fabriquant ce métro, ça ne justifie pas, me semble-t-il, le fait d'endetter ou de risquer la faillite de la région bruxelloise. Donc, a priori, les politiques à la région bruxelloise, ils sont quand même, ils doivent quand même faire attention à par exemple, chaque ministre est en train, je suppose, de se dire, j'espère que je vais continuer à avoir des moyens pour continuer les politiques dans mon domaine d'activité. Donc, je sais pas, pour moi, c'est assez irrationnel. Quand on regarde un peu la lecture politicienne des choses, on voit que c'est beaucoup le Parti Socialiste qui a poussé ce projet. Il est pas le seul, hein, le MR aussi, mais enfin, il y a une forte défense du projet au niveau du Parti Socialiste. Comme je disais, par exemple, le fait que Vervoort veut attirer le métro à Evere. Voilà, donc je pense qu'on est dans ce genre d'irrationalité-là qui aussi ne prend pas en compte, puisque je vois que le temps file, je trouve que c'est quand même intéressant de le dire, ne prend pas en compte les aspects écologiques. Donc, donc je répète, enfin je disais, moi je lisais encore un article qui faisait référence à des études suite au dernier rapport du GIEC, etc., qui disait qu'en gros en 2500 l'atmosphère et le climat sur Terre seront devenus complètement hostiles à la vie humaine. Alors pas complètement, il restera des endroits du monde où on pourra vivre, mais 500 ans, c'est moins de 500 ans, on parle de 2500, donc c'est vraiment des échéances
4,
très courtes.
4 ou 5 générations.
Ouais. Une génération 100 ans, non.
L'espérance de vie.
C'est pas dans des millénaires.
C'est pas dans des millénaires. Donc, enfin, je veux dire, on est dans une situation extrêmement critique. Donc, je veux dire, et ça, c'est à rythme constant notamment de production de gaz à effet de serre, de consommation, etc. Donc, évidemment, je dis pas que le métro 3 va changer considérablement la donne dans un sens ou dans un autre. C'est juste pour dire, c'est un projet qui est symptomatique de comment on continue à considérer les développements urbains et la question notamment de s'affronter ou pas à la présence de l'automobile. Et donc un chantier comme celui-là, donc ça c'est le chapitre du bilan carbone qui se trouve dans l'étude d'incidence qui est à l'enquête publique. Donc ça, ce sont les chiffres étudiés par les bureaux d'études qui nous annoncent pour le tronçon nord 245 000 tonnes de CO2 rien que pour le chantier. Si on ajoute le tronçon sud, on est à peu près à 310 000 tonnes. Ça, ce sont des chiffres qui sont probablement un peu sous-estimés, qui peuvent augmenter effectivement, notamment en cas de complications sur le chantier. Et si on regarde de l'autre côté ce qui est prévu comme diminution du trafic automobile par la mise en service de cette ligne une fois qu'elle sera mise en service, c'est-à-dire pas avant 2032, les chiffres officiels prédisent une diminution du trafic automobile à l'heure de pointe de 0,6%, c'est-à-dire peanuts.
Moins de 1%. On a calculé, donc si vous prenez un véhicule, vous enlevez 0,6%, c'est comme si vous enleviez la roue de secours. Donc en gros...
Qui n'existe plus maintenant, on m'a dit, dans les véhicules, donc c'est
besoin.
Rien enlevé du
donc,
tout.
On a une réduction du trafic automobile. Donc le bénéfice, c'est moins de 1%. On va réduire de moins de 1% le trafic automobile. On a un chantier qui, si tout se passe bien, va se terminer en 2030. et ne sera amorti écologiquement qu'en 2080. C'est bien ça ? 2090.
Alors ça,
les chiffres qui étaient.
Ouais, ce calcul-là, c'est-à-dire savoir si on amortit, ça c'est un calcul qui est un peu plus. C'est pas le calcul qui est fait dans l'étude d'incidence, et c'est un calcul que certaines associations sont en train de faire. Donc je suppose qu'ils vont à un moment le sortir. Mais en gros, le calcul, c'est de savoir une fois qu'on réduit le carbone, les émissions de carbone par une réduction de voiture de 0,6%, mais que par ailleurs on fait 245 000 tonnes de carbone, enfin 310 pour fabriquer le métro, plus chaque année le carbone qui est nécessaire au fonctionnement des rames, à tous les escalators, au refroidissement, réchauffement à l'intérieur des stations, etc. Et c'est là que je m'avance peut-être un peu, je pense que des associations vont bientôt sortir une étude là-dessus. L'idée, c'est qu'en fait, jamais le coût énergétique et écologique du métro ne sera compensé par la faible réduction automobile. Donc c'est un métro qui va rajouter de la pollution à la pollution.
Donc clairement, là, ce projet-là nous dit... Tous les objectifs fixés par le GIEC, fixés par les COP 21, 22, etc., on en fait fi. C'est-à-dire c'est clairement un projet qui ne prend pas du tout cette question-là en compte.
Et tout à l'heure, on évoquait le fait qu'il y a peu de mobilisation citoyenne. En fait, les populations qui habitent le long du tracé sont peu informés. Est-ce que c'est aussi parce que depuis des années, on nous bassine aussi, on a développé vraiment une valorisation du métro comme étant quelque chose de positif et comme de l'autre côté, en disant ben, les trams, ils sont toujours bloqués partout. Et donc, est-ce que ça a contribué aussi au fait qu'il n'y ait pas de réaction, en fait, et qu'on survalorise le fait d'avoir un métro, parce qu'on considère l'imagerie aussi populaire fait que le métro, c'est chouette, quand même.
On le voit, nous, dans les commentaires de certaines vidéos, on voit des gens qui disent « vous êtes ». Alors, déjà, le débat se pose comme pour ou contre le métro. Donc, ça veut dire que les gens qui vont s'opposer ou qui vont vouloir poser des questions sur le projet du métro 3, on va les pointer de doigts en disant « vous êtes contre le métro ». Le débat ne se pose pas comme ça. On a un des chercheurs qui, dans le film, le dit, il n'est pas contre le métro sur le principe, il est contre ce métro-là, où il se pose la question de la légitimité de ce métro-là. Donc il y a déjà une question de, on va dire, le débat public a été biaisé à ce niveau-là. On en est à pour ou contre le métro, on n'est pas à se poser les bonnes questions. Et puis, il y a ce qu'on disait en début d'émission, c'est l'émiettage des questions. C'est-à-dire qu'on va vraiment discuter de choses, de petits détails, au lieu de discuter du fond. Je sais pas si...
Oui, tout à fait. Je crois aussi qu'il y a cette espèce d'a priori positif, mais moi-même, au début... pour avoir un a priori, pas forcément négatif en tout cas, mais c'est vraiment quand on creuse différents aspects qu'on se rend compte de l'aberration de ce projet, quoi. Et comme eux, évidemment, ils n'ont pas... leur intérêt, ce n'est pas de provoquer une levée de bouclier, donc rien n'est fait pour que la population se rende vraiment compte de ce que ça représente. Oui.
On est aussi face à une... je vais dire propagande, ou en tout cas vraiment un système de communication qui est hyper bien ficelé. C'est-à-dire que la STIB ou la chaîne du Métro 3, par exemple, sur les réseaux sociaux, postent des vidéos peut-être toutes les semaines, je crois, pour vanter les mérites du Métro 3. Donc on est aussi dans un plan de communication. Nous, dans nos capsules vidéo, on a cherché à interviewer Begueris et la STIB, qui ont refusé nos interviews. Donc, on est vraiment dans un système où eux maîtrisent leur communication et à aucun moment ne veulent être confrontés à des questions compromettantes ou en tout cas qu'on leur pose les questions qu'on essaye de poser dans ces capsules.
Oui. Et du coup, sur cet aspect-là, c'est-à-dire comme on n'a pas eu l'interview de la STIB et de Belliris, on a eu la porte-parole de la ministre de la Mobilité, mais donc on cherche à faire vivre leur point de vue, leurs arguments d'autres manières dans les capsules, donc parfois en reprenant des petites interventions qui sont passées dans des débats à la télé, par exemple. Et on se rend compte que même les gens qui sont envoyés pour débattre à la télé, c'est pas des premiers couteaux, quoi. Ils vont chercher un ancien administrateur de la STIB qui est conseiller communal à Scarbeck. Enfin, je veux dire, c'est pas le directeur de la STIB. Parfois, il y a le directeur de Belliris. Ça, c'était juste au moment du lancement de l'enquête publique. Et que parfois, les arguments sont un peu, voilà, les arguments pro-métro sont au doigt mouillé, dire oui, bon, 0,6%, c'est ce que disent les études. Mais vous verrez, une fois qu'il y aura l'offre, les automobilistes laisseront leur voiture et s'engouffreront par milliers dans le métro. Ça, c'est vraiment du doigt mouillé, quoi. Ou dire Bruxelles est une capitale internationale et donc elle se doit d'avoir des outils performants. Voilà. Parfois, les arguments sont très faibles. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont refusé les interviews, parce qu'ils se doutaient que nous, on allait arriver avec les arguments plus développé par les géographes, les associations, tout ça, qui ne sont pas à l'aise avec ces arguments-là.
On n'est même pas sûr qu'eux croient véritablement à leur projet. C'est ça qui fait peur.
Oui. Et juste parce qu'effectivement, je vois que le temps tourne, est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur ce fameux tunnelier qui est une machine impressionnante?
Ça, c'est le côté hollywoodien du projet. C'est la scène de fin. Je te laisse en parler parce que tu maîtrises mieux.
Écoute, le tunnelier, moi j'ai découvert ça aussi à cette occasion-là. Hein. J'entendais le mot tunnelier, mais je me rendais pas compte à quel point c'était un monstre. Donc un tunnel de 10 mètres de diamètre, hein, donc qui va laisser passer deux rames de métro. Il est fabriqué par cette machine qui est si tu prends l'image du ver de terre qui creuse sous la terre, mais tu à la place du ver de terre tu mets
un robot,
un gros robot énorme, rond.
Un suppositoire, un gros tube en forme de suppositoire,
ouais, qui est en fait une usine dans laquelle il y a des travailleurs, etc. Et donc ce machin creuse le sol et fabrique en même temps les parois de béton. Et c'est pour ça que les stations vont se retrouver si profondes, parce qu'en fait le choix initial a été fait. Ils se sont dit politiquement ça ne passera plus aujourd'hui de faire une ligne en disant qu'on va éventrer la ville en surface. Et donc la solution technique qui plaît beaucoup aux ingénieurs, parce que ça n'a jamais été utilisé à Bruxelles, donc ils sont tout excités d'utiliser cette machine pour la première fois. Ça se fabrique apparemment uniquement en Chine et en Allemagne, les tunneliers, et donc c'est cette espèce d'usine suppositoire géant qu'on fait passer sous sol et qui fabrique le tunnel. Alors effectivement, il y a évidemment des études qui sont faites pour ne pas passer à n'importe quel endroit. C'est à 30 mètres de profondeur pour éviter en théorie de faire effondrer des maisons, etc. Mais c'est dans des endroits du sol bruxellois où on n'est jamais allé, donc ils sont évidemment pas à l'abri de rencontrer des problèmes.
Le tunnelier, c'est des techniques qui sont utilisées, vous tracez une ligne en rase campagne, on va dire, ou sous une montagne, sous un sol assez homogène, ça fonctionne. Je veux dire, ici, on est sous une ville marécageuse. Et comme je répétais, l'utilisation, par exemple, en banlieue parisienne qui se fait en ce moment montre qu'il y a des problèmes. Moi qui suis, par exemple, un passionné de culture populaire, de pop culture, dans les Tortues Ninja, les méchants se déplacent avec des véhicules qui creusent sous terre, des tunneliers. Donc voilà, peut-être que la métaphore, est là.
C'est les Tortues Ninja. Il y aurait encore tellement à dire. Comment on peut... Est-ce qu'il y a des réunions d'information? Est-ce qu'il y a
Nous, on fait des vidéos, donc on propose simplement d'essayer de vulgariser les grands enjeux. On sort 10 vidéos, là il y en a 5 en ligne, il y en a une 6e qui sort incessamment.
On essaie de sortir régulièrement, toutes les semaines.
Et c'est plutôt pour informer les gens et essayer de pour faire en sorte que les gens qui vont pas lire les 6300 pages et quelques données qui soient pas les données de la propagande Steve Belliris, voilà. Mais nous, on se contente de faire ça et c'est déjà pas mal de boulot. Après, il y a des associations comme Inter-Environnement ou comme l'ARO, Atelier de Recherche et d'Action Urbaine, qui sont très mobilisés sur la question. Donc, des gens qui voudraient plutôt être informés, ils ont organisé une réunion publique à Scarbec la semaine dernière, etc. Il faut plutôt contacter ces associations-là. Ou des comités d'habitants, il en existe par exemple Sauver le Square Riga dans le quartier d'Elmette. Il y a des associations, l'association des commerçants de la rue de Brabant qui est mobilisée aussi puisqu'ils vont être très impactés par le chantier de la place Litz, etc. Donc il y a, en fonction des quartiers, il y a des comités d'habitants qui sont mobilisés. Mmh.
Et ça passe aussi par des quartiers assez populaires, en fait, ce métro. Et donc, où les gens vont forcément être super, super impactés par...
Ça, c'est un des autres aspects, si on a encore le temps, c'est que les deux quartiers qui vont être le plus impactés, c'est Stalingrad et c'est rue du Brabant. C'est ça, hein, Gare du Nord. Et donc, ce sont des quartiers qui sont... très populaires, avec une forte densité de population. On imagine, par exemple, à Stalingrad, ils sont partis pour 10 ans d'avoir leur commerce dans des préfabriqués. Donc, on imagine tout de suite le scénario, dans 10 ans, quand ce sera terminé, alors le prix de l'immobilier va augmenter. Tous ces petits commerces qui auront passé 10 ans en face d'un chantier devront déménager et laisser place aux grandes chaînes de fast fashion. Et alors, ce sera très beau, hein. On aura une belle rambla à Stalingrad avec des beaux magasins, des fast food. Voilà. Mais on a cette question qui n'y a pas véritablement d'études, mais on comprend bien qu'il y a aussi un nettoyage de ces deux quartiers dans ce projet.
Oui. Voilà. On est perplexe, en fait. C'est ça aussi, que ce genre de projet tellement gigantesque et irrationnel qu'on a du mal à savoir effectivement par quel fil tirer. Et donc, d'où l'intérêt de ces différentes vidéos que je conseille. Donc, il y a un site web.
Don'tlookdown.be, c'est comme Don't Look Up, mais vous remplacez Up par Down, et au lieu de regarder la comète qui arrive, vous regardez le tunnelier sous vos pieds. Don'tlookdown.be, et il y a une page Facebook aussi.
Ok.
Donc on a le site, Facebook et YouTube, c'est les trois plateformes pour l'instant. On compte sur le bouche à oreille et le côté viral de la chose pour diffuser les capsules.
Eh bien, merci beaucoup pour d'être venu ce matin. Merci de faire ce travail aussi de sensibilisation et de diffusion des risques et dangers de ce projet. Et Gwen, tu avais suggéré d'écouter Le Roi du Métro. C'est Le Roi du Métro de Dick Annegarn et on se quitte avec ça. Et pour ma part, je vous retrouverai la semaine prochaine. Merci beaucoup Stéphane et Gwen.
Merci.
Merci de l'invitation.
Et bonne journée à vous et aux auditeurs, auditrices. Et visiblement, il n'y a pas Radio Mukambo juste après.
Allez, la DH maintenant.
Le 7 mars de l'année 1972, à 10h32 précis, le roi d'une petite belle fille éclatait sa cour d'applaudissements pervers. Olé ! En attribuant humble participation à ce métro prolétaire, place de Brouckère. 729 623 ouvriers après le roi manière l'appel, quoique non doré et sans jour précis. Vous n'entendrez plus jamais parler d'eux, ni de l'or bleu, ni de leur nom du Dieu. Ils sont la concrétisation de la matérialisation moderne. Moderne métro remplace l'auto, qui remplace la moto, qui remplace le vélo. et bientôt, aussitôt que le métro devient rond, il faut sortir les chevaux.